assurances, les banques, les fonds de pension, tous ces investisseurs sur les marchés financiers, aujourd'hui, cherchent à faire des plus-values. Ils cherchent à spéculer. Et typiquement, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est acheter un droit de propriété sur le blé. Donc, ils achètent leur blé, ils ne se le font pas livrer, bien entendu, mais ils achètent un droit de propriété. Et puis, comme les prix du blé augmentent, dans 2 ou 3 mois, ils revendront leur droit de propriété sur le blé. Et donc, ils auront fait une plus-value.
La bourse de céréales de Chicago est fébrile. Les investisseurs délaissent les actions, car la bourse a chuté de 30% avec la crise des subprimes. Ils se reportent sur le marché des produits agricoles et contribuent à faire monter les prix.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Près d'un humain sur 6 souffre aujourd'hui de la faim. Une situation inacceptable aux causes multiples, comme on vient de l'entendre. Alors, quels enjeux se cachent derrière cette problématique de la faim dans le monde? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission avec nos deux invités, Ambroise Mazal, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, et l'ingénieur agronome Marcel Mazoyer. Mais tout de suite, un regard environnemental sur l'actualité avec Arnaud Apothécaire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la campagne OGM à Greenpeace France.
Oui. Bonjour Arnaud Apothécaire. À la une du journal Le Monde, on évoque le pari mondial de la croissance verte. Les plans de relance économique verdissent aux États-Unis, en Allemagne, au Japon. On assiste peut-être au début d'un basculement d'un modèle économique basé sur le pétrole et responsable du réchauffement climatique vers un modèle plus respectueux des ressources de la planète. Vous avez le sentiment que ce virage est amorcé, que les choses sont en train de changer ?
Mais c'est difficile de dire s'il y a déjà un virage. Je crois que de plus en plus, on prend conscience. Malgré tout, là, on parle de réchauffement climatique, on parle d'épuisement des ressources naturelles, et ça rentre de plus en plus dans les discours. Et comme on est en plus face à cette crise économique et qu'on fait des plans de relance, on nous dit qu'on va tenir compte un petit peu de ces limites et que vraisemblablement on pourra améliorer les choses. Cependant, je crois qu'on n'a pas pris conscience de l'urgence et de la nécessité absolue d'aller très très vite, et on est encore dans les contradictions entre un ancien modèle et puis un modèle qui voudrait être une économie décarbonée, une économie économe des ressources naturelles. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on voit l'exemple simplement du plan de relance en France. On développe les infrastructures routières alors qu'on sait qu'il faut réduire les transports. Et je vois pour les transports en commun, pour le train, les investissements pour les transports urbains communs, les investissements sont extrêmement limités. Donc on n'a pas changer de paradigme. On est encore dans cette vision de la croissance et on n'a pas réalisé qu'il faut vraiment qu'elle s'inscrive dans des limites fixées par la planète.
Oui, le Premier ministre a parlé de 400 millions de relance, donc qui devrait profiter davantage aux investissements routiers qu'aux investissements ferroviaires et aux fluviales.
Mais c'est là où on ne s'est pas rendu compte de l'urgence de la transformation qu'on doit faire. Moi, en tant qu'écologiste, je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui à un seuil. Les sociétés ont évolué. On n'a pas réalisé que l'influence aujourd'hui de l'homme sur l'ensemble des ressources naturelles est absolument énorme et qu'on a une économie qui est très très prédatrice. Je crois qu'il faut changer de paradigme et de se fixer comme limite comment est-ce que on a éventuellement une croissance, mais qui ne touche pas au capital renouvelable de la planète. Et ça, on ne l'a pas encore fait.
Alors, il y a peut-être un signe de ce changement des mentalités. C'est l'arrêt net de la construction de gratte-ciel à travers le monde. La plus haute tour d'Amérique latine, 300 mètres de haut, prévue à Santiago du Chili, ou la plus haute tour du monde, qui devait faire 1000 mètres à Dubaï, ou encore la tour Spire à Chicago, 610 mètres. Au total, 124 chantiers de gratte-ciel ont été stoppés ces derniers mois. Alors, est-ce que c'est le début d'une prise de conscience, justement, ou simplement un effet domino de la crise financière? Peut-être un peu les deux.
Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a un peu les deux. Moi, sur cet exemple des gratte-ciels, c'est peut-être anecdotique, mais bon, j'ai véritablement l'impression que c'est l'effet domino de la crise économique. Je pense qu'on est toujours dans une sorte d'état d'esprit où il faut encore aller plus loin.
Plus haut,
consommer plus, s'enrichir plus, battre des records en termes de consommation, de production. Et je crois qu'il faut qu'on change ça. Ceci dit, quand on parle de gratte-ciel, il y avait par exemple, y compris à Dubaï, je crois, un gratte-ciel qui devait être autonome énergétiquement. Donc c'est pas forcément le fait que ce soit un gratte-ciel ou pas un gratte-ciel qui pose des problèmes, je dirais, écologiques. C'est plus la vision qu'on a derrière ça. Et si on reprend cet exemple, moi je serais, je dirais à titre personnel, comme ça et en pensant tout haut, favorable à ce que lorsqu'on veut construire des gratte-ciels ou tout autre type de construction, on commence par un cahier des charges qui le rende autonome énergétiquement, par exemple. Une fois qu'on est dans ses limites, eh bien qu'on laisse éventuellement l'imagination se développer, qu'on laisse travailler les architectes, qu'on laisse travailler les ingénieurs, mais qu'on ait d'abord comme base les limites que ces constructions doivent être autosuffisantes.
Alors, aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, en Finlande ou en France, les études pullulent avec le même constat. Toutes les eaux, même potables, ont des traces d'antibiotiques, d'anticancéreux, d'antidépresseurs ou d'anti-inflammatoires à cause des procédés de traitement des eaux usées qui ne sont pas assez efficaces. Un cours d'eau, d'ailleurs, situé dans l'état indien de l'Andhra Pradesh, détiendrait même le record. C'est plutôt inquiétant, ces nouvelles pollutions d'origine pharmaceutique.
Oui, je crois que c'est très inquiétant. Ce qui est nouveau, là, c'est un peu cet aspect pharmaceutique. Mais ce que ça illustre un petit peu, c'est la globalisation ou la mondialisation des impacts environnementaux de nos activités. Il y a quelques années, on parlait à cette époque, c'était nouveau, des ours polaires contaminés par les pesticides utilisés en Europe de façon massive. Bon, aujourd'hui, les populations européennes utilisent des antibiotiques et autres de façon massive. Il y a déjà quelques années qu'on avait été alerté en Angleterre par les changements de sexe des poissons ou le fait que les poissons devenaient plus souvent féminins que masculins et que c'était sans doute lié à l'utilisation de la pilule. Ce que je crois, c'est que on utilise aujourd'hui une quantité de produits chimiques que l'on déverse de façon plus ou moins, je dirais, retraitée. Mais ce que ça montre, c'est qu'on le fait en telle quantité qu'il n'y a plus d'espace sur la planète. Alors là, on parle de l'eau, mais on pourrait parler de l'air, on pourrait parler des forêts, où l'influence humaine n'est plus traçable.
Alors, des loups ont été vus en Lozère, dans un département français, donc où ils avaient totalement disparu depuis la guerre. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Alors, j'imagine que ça dépend de si on est éleveur de moutons ou si on est amoureux de la nature. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est une bonne nouvelle. D'une certaine façon, ça montre qu'il reste encore des espaces sauvages où des espèces sauvages peuvent s'installer, qu'on n'a pas tout artificialisé complètement et qu'il reste encore de l'espace pour la nature pour se développer et parfois de façon qui ne soit pas strictement contrôlée par l'homme.
Feel sometimes like I'm just getting over, and I lose my grip on my four-leaf clover, and I catch a heel on a cobblestone. Feel a million miles away from home, but I down. When I catch my breath, I own this town. I wish everyone was as lucky as I am. Walking in the rain with my new striped umbrella, got my new boots on, arm and arm with my fella. Don't need a lucky rabbit's foot, dyed a pretty pink. You'll always be here with me, no matter swim or sink. Well, you can have them, leprechauns, just get in the way of the garden. You can cross my fingers, cross my toes, cross my heart, there's nothing close when you're
Molly Johnson dans C'est pas du vent sur RFI. Et c'est le moment de se pencher sur l'actualité environnementale d'une partie du monde. Aujourd'hui, les Amériques. Avec le maestro Orlando Torricelli, bonjour.
Bonjour Cécile.
Et on commence par l'acidification des océans.
Tout à fait, et jeudi dernier, plus des 150 grands noms des sciences de la mer, originaires des 26 pays réunis à Nice, ont lancé à l'avertissement aux décideurs à agir sans plus tarder pour réduire de manière décisive les émissions de CO2 afin d'éviter que l'acidification des océans ne cause des graves dommages aux écosystèmes marins. Les scientifiques soulignent que l'acidification, déjà détectable, s'accélère. Ils mettent garde sur le fait que les impacts négatifs de ces processus ne pourront pas être évités qu'en limitant les taux des CO2 dans l'atmosphère. La déclaration, le rapport ont été présentés par Jean-Pierre Gattuso, coordinateur du projet européen sur l'acidification, qui nous explique la présence de ces phénomènes sur la côte ouest des États-Unis.
Les côtes américaines sont touchées comme les autres côtes en fait dans le monde. Et il se trouve qu'aux États-Unis, sur la côte ouest, donc sur les côtes de l'État du Washington, de l'Oregon et jusqu'en Californie, il y a ce qu'on appelle un upwelling. C'est un système qui fait remonter de l'eau profonde, donc riche en CO2, vers la côte. Et il semble que ces arrivées d'eau, si vous voulez, qui est riche en CO2 et donc qui sont acides, deviennent plus importantes dans les années récentes. Et des collègues donc de la NOAA ont mis en évidence que des zones côtières maintenant étaient exposées à des eaux qui étaient corrosives pour le carbonate de calcium. Donc ça, c'est un effet assez spectaculaire et c'est la première fois qu'il est montré que une zone côtière pouvait être aussi gravement affectée par cette acidification.
Sous les effets de l'acidification, l'eau de la mer devient corrosive, un phénomène saisonnier qui a des graves conséquences pour la faune marine, en particulier pour les coquillages. James Orr, océanographe de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Aux États-Unis, on a remarqué certains phénomènes récemment sur les côtes ouest des États-Unis. Au large de Oregon, par exemple, ils avaient des océanographes qui ont fait des campagnes entre le Canada et le Mexique. Ils ont regardé que certaines eaux sont actuellement en pontant. Ils sont devenus corrosives aux calcaires qui sont fabriqués par les coquillages sur les côtes américaines. Ça veut dire que c'est les premières fois qu'on voit dans une zone côtière une eau qui a un niveau de carbonate, un des éléments nécessaires pour fabriquer ces coquilles qui est tellement bas que les eaux en fait sont corrosives aux coquilles, qui fait que des coquilles vont se dissoudre.
Alors, toujours aux États-Unis, une étude publiée la semaine dernière par le Centre médical de l'Université de Rochester de New York soulève des nouvelles questions sur le bisphénol A.
Tout à fait, Arnaud. Alors, cette controversée substance utilisée dans des conteneurs en plastique est connue pour s'extraire spontanément de plastique comme un biberon réchauffé. Selon les chercheurs, l'éthénère en bisphénol A diminue très lentement et pourrait être stocké dans l'organisme. Les centres de contrôle et prévention des maladies estiment que 93% des Nord-Américains ont des traces détectables de bisphénol A. Les toxicologues avaient fait connaître les inquiétudes en 2008 sur le fait que cette substance peut avoir des conséquences néfastes sur le développement du cerveau des fœtus et des nouveau-nés.
En Amérique du Sud maintenant, les grandes métropoles sont au bord de l'asphyxie. Elles sont victimes du chaos des transports.
Absolument. Le maire de Bogota, la capitale colombienne, 7 millions d'habitants, 1,4 million voitures, a annoncé dimanche dernier son intention d'interdire complètement à partir des 6 février prochain la circulation des véhicules particuliers 2 jours par semaine entre 6h du matin et 20h du soir pour éviter la paralysie de la capitale colombienne.
Au pays du Tango, les Argentins sont préoccupés par l'impact environnemental d'une expérience scientifique allemande, expérience visant à limiter les effets du réchauffement global.
La semaine dernière, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères a fait des déclarations dans ce sens. Les projets allemands qui visent à atténuer les effets du réchauffement consistent à déposer dans l'océan 20 tonnes de sulfate de fer. Il faut expliquer, Arnaud, que l'apport de fer favorise la reproduction des phytoplancton, lesquels permet de fixer les gaz carboniques présents dans l'atmosphère. L'expérience doit se dérouler prochainement dans un petit archipel argentin. Mais certains experts craignent de possibles effets secondaires imprévus d'une telle expérience.
Merci Orlando Torricelli.
C'est pas du vent @rfi.fr.
Alors, plus de 150 grands noms des sciences de la mer originaires de 26 pays ont donc tiré le signal d'alarme vendredi dernier en précisant qu'il fallait immédiatement réduire de manière décisive les émissions de CO2 afin d'éviter que l'acidification des océans ne cause des dommages graves et irréversibles aux écosystèmes marins. Arnaud Apothécaire, c'est pas très bon signe, ça.
C'est pas très bon signe, c'est extrêmement inquiétant, et on en a un petit peu parlé auparavant, hein. On parle des émissions de gaz à effet de serre, on a souvent parlé du réchauffement climatique comme cause majeure, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est en train de modifier complètement les grands équilibres géochimiques à la surface de la planète, et que cet excès de CO2 a aussi des conséquences sur l'océan, et que ces conséquences vont avoir en retour d'autres conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre. On est dans une sorte de machine qui s'accélère, on l'a dit, on voit les données, et qui approche de l'emballement. Et pour revenir, c'est là qu'il faut véritablement changer de paradigme. Et on fait, bon, c'est peut-être des choses très osées qu'on peut faire, mais on parlait de ces plans d'investissement vert qu'on a mentionné au début de l'émission, et je ne pouvais m'empêcher d'y penser quand on a parlé de Bogota, qui est effectivement complètement asphyxié par les transports automobiles, et pour lesquels il y aurait un besoin urgent de changer la planification urbaine et de développer véritablement des transports en commun massifs.
Alors Arnaud Apothécaire, on le disait au début de cette émission, vous êtes responsable de la campagne OGM à Greenpeace. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le front des OGM ?
Ben, sur le front des OGM, en ce moment, il se passe des tentatives, je dirais, extrêmement inquiétantes et sournoises de la Commission européenne qui vise à essayer d'obliger la France et d'autres pays européens à lever leur clause de sauvegarde. On sait, la France et trois autres pays européens, l'Autriche, la Hongrie et la Grèce, avaient interdit le seul maïs OGM autorisé dans l'Union européenne, hein, ce fameux maïs insecticide. La France, l'année dernière, a imposé la clause de sauvegarde et l'a interdit, de même que ces trois autres pays. Et aujourd'hui, à peine deux semaines après un conseil des ministres de l'environnement qui admettait que les procédures d'évaluation n'étaient pas correctes, n'évaluaient pas les impacts à long terme et qu'il fallait les revoir et qu'il fallait au moins deux ans avant de pouvoir avoir des évaluations satisfaisantes, eh bien la Commission européenne essaye de passer outre les décisions politiques des ministres de l'environnement et se propose dès le 16 février d'obliger la France à retirer sa clause de sauvegarde. Alors nous, on va évidemment demander aux auditeurs de RFI, mais à l'ensemble du public, de nous aider. Et il faut que le gouvernement français réagisse de façon extrêmement virulente. Il faut qu'il défende sa clause de sauvegarde. Il faut qu'il se plaigne de l'ingérence de la Commission dans les questions véritablement de souveraineté, de sécurité nationale. Et il faut enfin qu'il convainque l'ensemble des pays de l'Union européenne de garder cette clause de sauvegarde.
Merci Arnaud Apothécaire. C'est le moment d'écouter la planète, au moins pendant une minute. Aujourd'hui, babillage autour d'une fontaine dans un village en Tanzanie.
Chut. Écoute.
C'est pas du vent, on revient juste après un rappel de l'actualité. Nous nous intéresserons à la sécurité alimentaire dans le monde avec Marcel Mazoyer, ingénieur agronome, et Ambroise Mazal, chargé de plaidoyer pour la souveraineté alimentaire au comité catholique contre la faim. A tout de suite.